La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonsoir, bienvenue sur Fréquence T pour une émission consacrée au métier de médiateur numérique, un métier qui a le vent en poupe. À l'heure où l'État s'apprête à déployer 4000 conseillers dans les territoires pour aider les Français à mieux maîtriser les outils numériques, on a voulu s'intéresser à ce métier d'avenir dans les établissements culturels, le métier donc de médiateur numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur numérique, animateur, conseiller tout terrain des publics, formateur, bien souvent communicant sur le web et ses outils? Le médiateur numérique vise, selon les termes du Réseau national de la médiation numérique, à comprendre et maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages, c'est-à-dire développer la culture numérique de tous pour pouvoir agir dans la société numérique. Donc un métier couteau suisse à la croisée des chemins de l'animation culturelle, de la citoyenneté et de l'action sociale. Pour évoquer ce métier bien particulier, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Michaël Rocle, médiateur numérique au sein du réseau des médiathèques communautaires Ardennes Métropole. Bonjour Michaël.
Bonjour Thibault.
Alors, ravi de vous recevoir, Michaël, parce que vous vous occupez d'un beau service numérique au sein de la médiathèque Voyelle, du réseau des médiathèques communautaires Ardennes Métropole, dont je ne vais pas faire semblant de ne pas la connaître, puisque j'ai eu le grand honneur de la diriger il y a quelques années. Michaël, quel est votre cursus et qu'est-ce qui vous a amené à occuper ces fonctions?
Alors, mon cursus est assez multiple, puisque j'ai débuté grâce tout d'abord au plan informatique pour tous, c'est-à-dire que ça date 1981, donc dès les plus jeunes âges, 8 ans, à tester en fait l'informatique telle que le gouvernement de l'époque voulait l'implanter dans les écoles. Ça m'a donné le virus, un peu comme Obélix, on va dire. Et par la suite, donc j'ai fait des études d'électronique tout d'abord, qui m'ont permis de découvrir un peu l'envers du décor, la machine derrière le logiciel, de l'informatique industrielle, pour apprendre la maîtrise du code, de l'informatique type administration serveur web, grâce à des études supérieures, et puis en autodidacte, découverte de l'informatique libre, de l'utilisation de logiciels et de bien d'autres choses, utilisation système. Donc un cursus un peu à l'image de ce que vous disiez, donc c'est-à-dire un cursus un peu couteau suisse. Ma carrière professionnelle a aussi permis de développer un peu ses compétences, puisque j'ai travaillé 11 ans sur une radio associative, puis une web radio associative, et de ce fait, on a appris à utiliser d'autres applications, à utiliser l'informatique autrement, et c'est comme ça que je me suis intéressé à un métier qui se rapprochait un peu de la formation, que j'ai travaillé comme cadre formateur en informatique libre, et lorsque le réseau des médiathèques Ardennes Métropole a proposer un poste, c'est un peu naturellement que je me suis tourné vers ce poste-là.
Alors Michaël, c'est bien que vous l'évoquiez, ce service numérique de la médiathèque Voyelle au sein du réseau des médiathèques communautaires Ardennes Métropole, parce qu'il va prochainement avoir les honneurs d'un article de la Gazette des communes, c'est dire quand même qu'il est reconnu aujourd'hui. Quelles sont les missions de ce service numérique que vous avez contribué à lancer au sein du réseau des médiathèques?
Alors avant de répondre effectivement à cette question, c'est un article plus généraliste que la Gazette des communes va faire, c'est sur le jeu vidéo en médiathèque, puisque c'est un sujet qui actuellement pose beaucoup de questionnements.
Oui, on en parlera d'ailleurs.
On a interrogé effectivement la médiathèque Voyelle, parce qu'elle fait partie de ces secteurs un peu en avance, mais c'est surtout quelque chose un peu plus généraliste que la Gazette des communes va offrir en article bientôt. On va rendre à César ce qui appartient à Jules. L'émission que moi j'ai mis en place au sein du réseau des médiathèques communautaires Ardennes Métropole, elles sont multiples. De par ma carrière en radio, j'ai eu l'occasion de monter ce qu'on pourrait dire un réseau de connaissances, puisque l'idée principale de la radio où je travaillais, c'était de mettre en avant toutes les associations et les offres culturelles locales. Donc de fait, j'ai pu rencontrer énormément de monde qui travaillait dans le milieu musical principalement, parce que c'était une radio, mais aussi bien entendu dans le milieu associatif et le numérique dans les Ardennes et à Charleville-Mézières, de par la présence du Fab Lab de l'IFTS par exemple, fait que de nombreuses structures associatives se sont créées autour de ça. Il y a aussi d'autres associations qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo et de ce qu'on pourrait qualifier de pop culture, donc la Japanimation, le jeu sur console, etc. Et ces différentes structures que j'ai voulu intégrer, auxquelles j'ai offert, on va dire, une possibilité d'action au sein du service numérique. Donc ça, ça a été la première chose, c'était créer, en fait, faire de l'espace numérique, que ce soit le laboratoire ou la gaming zone, enfin la ludothèque, hein, ce sont les deux structures du service numérique, un moyen de faire une vitrine de ce que le numérique, dans le sens le plus large, peut offrir aux habitants de Charleville-Mézières. Donc ça, c'était une partie de ma mission. C'est ce que j'ai essayé de lancer avec alors des associations comme Informatique Libre en Ardennes, avec Acarden, qui est une grosse association qui fait des apéros digitaux. Alors pour le moment, un peu en suspens, malheureusement, avec la situation sanitaire, qui a participé à l'hackathon, donc qui ont eu lieu pendant le Cabaret Vert, une grosse manifestation qui a lieu fin août, ou au Château Fort de Sedan aussi, ils en ont fait une. Donc ce sont ces associations-là. Des associations aussi pour démontrer que le jeu n'est pas que vidéo, avec l'association des portes de l'imaginaire qui fait on va dire de la démocratisation de l'initiation au jeu de rôle. Voilà un peu ce que j'ai lancé au sein du réseau en rôle.
D'accord. Alors, vous évoquiez le jeu vidéo, Michael. C'est évidemment, on en parlait au travers de l'article de la Gazette des Communes, c'est une question évidemment qui taraude encore les décideurs et sans doute aussi les bibliothécaires qui veulent faire valoir ce médium très très porteur dans leur collection. Est-ce que vous estimez, et si oui, pourquoi, qu'un espace jeu vidéo dans une bibliothèque de lecture publique, c'est un espace légitime?
Alors, c'en est un. Obligatoirement, il n'y a aucune question à se poser là-bas. À ceux qui en doutent encore, moi je conseillerais de lire le rapport de l'Inspection Générale des Bibliothèques de février 2015, qui s'appelle « Jeux et bibliothèques pour une conjugaison fertile », qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site du gouvernement. Donc on va pas mentir là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est digne d'intérêt, puisque il faut savoir que le jeu vidéo est quelque chose qui, au même titre que le fut le DVD, il y a une dizaine d'années, ou même le CD, est inscrit en fait sur le manifeste sur la bibliothèque publique de l'UNESCO de 94. Donc on prend un qui est quand même assez ancien, qui explique que les collections des bibliothèques, des collectivités publiques doivent être représentatives, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, de l'ensemble des connaissances, des courants d'opinion et des productions éditoriales. Et le jeu vidéo actuellement, et même depuis déjà une dizaine d'années, devient un média qui a su se développer au point que, si on prend plus l'aspect économique, il surpasse, et encore plus cette année avec le Covid, hein, il surpasse le monde du cinéma. Si on fait un parallèle entre ce qu'il y a eu il y a 40 ans et maintenant, on pourrait parler du cinéma d'auteur à la Méliès qui faisait ça dans son entrepôt, avec une équipe restreinte et des moyens qui étaient les siens au départ. Et le cinéma d'aujourd'hui, avec un avatar de James Cameron, le jeu vidéo, c'est ça maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait parler d'un Eric Chahi qui a développé des jeux mythiques, mais quasi tout seul, ou Captain Blood, par exemple, où c'était des équipes très restreintes. Maintenant, on parle de studios de jeux vidéo. Si on prend, par exemple, le développement de Disney, c'est 500 millions pour Bungie. C'est énorme comme budget. Donc, rien que d'un point de vue économique et d'un point de vue fonctionnement, le jeu vidéo, maintenant, on va dire un média qu'on peut pas occulter. D'un point de vue culturel, il est tout aussi important, puisque au-delà des licences qu'on pourrait mettre en avant pour un peu décrédibiliser l'intérêt du jeu vidéo, mais prenons des choses comme 11-11 Memories, par exemple, ou Mémoire d'un soldat inconnu, ou bien d'autres, comme Ori, on a des pépites de narration qui sont dignes d'une écriture de roman. Même à Uncharted, on pourrait parler du scénario d'Uncharted et faire un parallèle d'un côté transversal, sur la création d'un scénario de film. Le jeu a sa place, clairement, dans une médiathèque, dans un ensemble de biothèques. C'est quelque chose d'inéluctable. Par contre, effectivement, comme tout, on va dire, média récent, il y a quand même des questionnements qui sont posés, c'est effectivement sur la gestion des auteurs. Et ça, c'est une chose qui, malheureusement, même d'un point de vue public, se pose. On va occulter un peu le côté de la médiathèque, mais on voit l'affaire des streamers qui est tombée il y a peu, où certains studios demandent aux streamers de jeux vidéo une contrepartie de droits d'auteur, on va dire, pour l'utilisation du média dans le but de faire un stream. ce que ne veulent pas les streamers, parce qu'ils considèrent que le jeu, déjà, ils l'ont acheté, et autres. Ça, c'est tout un autre débat. Mais le jeu a sa place, avec les soucis que ça implique pour se mettre dans la légalité, mais ça, c'est tout autre chose. Le jeu a totalement sa place, d'un point de vue direct, ne serait-ce que la découverte, et d'un point de vue transversal, tant il a des liens avec le monde de la bande dessinée, avec le monde du cinéma, avec le monde des romans. Il est tout à fait légitime.
En complément de votre réponse, je renvoie à nos auditeurs à l'excellente collection Médiathème de l'ABF qui a publié en 2014, sous la direction de Anne-Gaëlle Gaudion, qui est une grande spécialiste de la question, et Nicolas Péris, un bouquin excellent qui s'appelle « Jeux vidéo en bibliothèque ». Alors, les réticences des élus sont encore souvent importantes à l'usage lorsque les bibliothécaires ou d'autres acteurs culturels essayent de lancer des espaces jeux vidéo. Comment peut-on parvenir à rassurer les décideurs locaux?
De deux manières. Bon, déjà ne pas les leurrer en leur parlant de flou juridique sur la gestion des jeux. La réponse elle est simple. C'est effectivement, c'est pas qu'il y a un flou, c'est qu'il n'existe pas de structure au même titre que la SACEM ou d'autres qui régulent les droits d'auteur et qui les redistribuent. C'est juste ça le problème. La réponse à faire, c'est prenez votre courage à deux mains, faites un courrier et envoyez-les aux éditeurs. Et considérons qu'au bout de 3 mois, effectivement, en l'absence de réponse, on peut dire que c'est une réponse à 8 à 7. Comme ça, au moins, ils n'auront aucune crainte à ce niveau-là. Donc, le problème de la légalité est vite réglé. Ensuite, comment gérer le public. Pour ça, je dirais qu'il existe un magnifique site qui s'appelle Pédagogeux, qui est en partie géré par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui s'adresse aux parents et aux enfants, qui explique énormément de choses d'un point de vue didactique sur le PEGI. Donc déjà, respecter le PEGI, même si effectivement le PEGI n'a pas de légalité en soi, il n'a pas d'imposition, on ne peut pas dire comme un jeu d'argent, si tu n'as pas 16 ans ou 18 ans, tu ne joues pas, mais on peut très bien s'appuyer sur un respect du PEGI et s'arranger en étudiant tout simplement les statistiques de son établissement pour orienter, on va dire, la politique d'achat de manière à être la plus représentative des tranches d'âge. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de prendre des jeux 18+, si effectivement, la majorité des usagers qui viendront en ludothèque ont entre 7 et 12 ans. C'est de l'argent qui est dépensé, et c'est surtout une perte pour l'usager qui se dit, moi j'aimerais bien jouer, j'y ai pas le droit, alors qu'à la maison je peux. Mais le respect du PEGI est là. Ensuite, de nombreux médecins ont fait des études sur l'intérêt et les risques du jeu. L'intérêt, il y a un certain développement, d'un point de vue la manière d'utiliser la manette, les enfants qui jouent, effectivement, arrivent à être plus réactifs et autres. Il y a plein de points de vue bénéfiques aux jeux vidéo. Il suffit de chercher, il y a plein d'études qui ont été faites. D'un autre côté, pour les craintes et autres, on peut très bien respecter le conseil qui a été donné par des médecins qui disaient limiter à 2 heures un jeu. Voilà, normalement, c'est 30 minutes de pause, mais beaucoup de médiathèques le font. Ils disent, c'est 1 heure à 2 heures par jour. Ça suffit largement. Ensuite, on peut mettre en avant, effectivement, l'intérêt transversal. C'est-à-dire que si on regarde, alors j'ai parlé par exemple de la médiathèque du Jura, donc c'est les 4C, c'est le centre culturel des Cordeliers. Lui, il travaille en mettant les jeux vidéo directement dans les collections de DVD. Parce que cette œuvre hybride, elle peut s'intégrer dedans. Elle a ses thématiques qui sont propres au cinéma. Donc on peut très bien refaire les liens. C'est-à-dire que c'est pas un média est isolé, il va faire partie d'un ensemble de thématiques qui peuvent travailler avec d'autres secteurs et qu'on peut mettre en avant via des animations, via par exemple des thématiques abordées, des expositions. Le meilleur exemple que je pourrais citer, ça a été l'arrivée lors de l'année 2019 d'une exposition du Cabaret Vert qui était sur la série Elfes et Gobelins de Jean-Luc Estin. On avait le jeu Styx. Et c'est où on joue un gobelin. Le lien était tout fait. On a pu mettre le jeu en avant et le mettre en lien avec la bande dessinée. Et il n'y a pas que ça. Tardi a travaillé sur du jeu vidéo. Donc on peut très bien retrouver la série des Mystes aussi. C'est un très bon choix pour montrer la beauté qu'on peut mettre. Je crois que c'est du Sobral dessus. Les décideurs locaux n'ont pas à craindre le jeu vidéo. Je comprends qu'on puisse le craindre parce que c'est quelque chose de nouveau. Comme effectivement les DVD à une époque, ou les CD, ou les comics, ou les mangas. Mais il faut savoir dépasser la crainte de l'inconnu, s'y intéresser. Et beaucoup de gens très sérieux, des médecins, des psychiatres, ont travaillé, ont fait des études qui démontrent que bien sélectionné, bien choisi, une thématique de jeu vidéo dans une ludothèque, ça peut être un point très positif. Et puis il y a le côté intergénérationnel aussi, qui peut être mis en avant. Certains jeux sont faits pour justement pousser à des jeunes qui, parfois, n'ont pas les compétences pour résoudre une énigme, pourquoi pas, à jouer avec leurs parents qui les aideront, qui les guideront. Donc, il y a énormément de points positifs mis en avant.
Oui, et puis on a vu aussi que bien souvent, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeux vidéo peuvent aussi aider à développer des compétences sociales, si tu veux que ça puisse penser. C'est pas uniquement une activité solitaire. Hein. Donc c'est aussi intéressant.
On peut travailler à plusieurs. Et puis je terminerai aussi sur un point positif d'une autre expérience qui a été effectuée à Ardennes Métropole au laboratoire, où des jeunes atteints de troubles de dyslexie, dysphasie, etc., ont travaillé sur Minecraft ensemble, en collaboratif. Et à partir de là, ils ont développé un langage commun. Certains qui ne jouaient pas au jeu ont pu découvrir effectivement le langage propre à ce jeu-là. Et on a vu une osmose qui se crée entre les jeunes. Ils ont travaillé quand même pendant 6 mois. Et histoire de donner une idée, ils ont posé pas loin de 510 000 blocs pour monter un château qui était imprimé en 3D. Donc on peut même pas dire que le jeu, c'est quelque chose de uniquement virtuel. On peut sortir du physique d'un jeu vidéo de manière assez simple. On se renseigne un peu sur les moyens mis à disposition.
D'accord. Alors, Mickaël, on va sortir un petit peu du domaine, aussi intéressant soit-il, des jeux vidéo pour évoquer d'autres aspects de votre activité en tant que médiateur numérique à la bibliothèque dans laquelle vous travaillez, notamment celle des compétences digitales qui sont, on le sait, hein, une demande forte aujourd'hui des usagers, création graphique et web, administration en ligne. Quels sont les besoins ou plutôt les grandes typologies, rapidement, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, qui sont exprimés par les usagers que vous rencontrez au quotidien?
Alors, parmi, on va dire, les typologies d'usagers qu'on retrouve, beaucoup nous demandent effectivement de l'assistance administrative. C'est vrai qu'on est en train de vivre quelque chose qui, alors pour moi qui suis numérique, ça me fait un peu mal au cœur, mais il y a une déshumanisation en fait de l'administration au jour le jour, de la part des grosses administrations, qui oblige maintenant, dès qu'on veut remplir un formulaire, dès qu'on veut faire quelque chose, que ce soit la CAF ou autre, souvent c'est par des sites web. Donc rien que le simple fait d'avoir accès à ces plateformes nécessite la création d'une boîte mail que certains n'ont peut-être pas forcément. Donc il y a la demande principale, c'est ça, c'est voilà, j'ai un besoin, je dois m'inscrire à la CAF, je dois faire une demande de passeport, je dois faire ma carte grise et autres, comment je m'inscris au site de la NPS et autres. Ça, c'est, on va dire, la plus grosse demande qu'il y a. Beaucoup aussi demandent alors des besoins des fois plus pragmatiques, plus pratico-pratiques, comme voilà, je dois envoyer un document à ma nièce ou à ma cousine ou à ma fille. Je dois scanner des documents. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous me montrer comment faire pour que je sois autonome? Ça, c'est les besoins, on va dire, du quotidien. C'est des besoins de base. Ensuite, on a, on va dire, l'étudiant ou le demandeur d'emploi, parce que ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, est de plus en plus représentatif. Il fut un temps où, sur le marché du travail, on s'intéressait plus au fond qu'à la forme d'un CV. Un CV, ça pouvait être une espèce de lettre indigeste remplie d'informations. Et c'est ça qu'attendaient, en fait, les recruteurs. C'est d'avoir toutes les informations possibles et imaginables sur une personne pour étudier son profil. Malheureusement, au vu de la somme énorme de CV qu'ils reçoivent, c'est un peu comme le test des 10 secondes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accrocher 10 secondes visuellement sur un CV, ça n'accrochera pas, il le mettra de côté. Donc maintenant, un CV, c'est devenu une vitrine, et donc une vitrine doit être attractive. Donc on doit mettre à disposition des usagers, en fait, des outils qui permettent de mettre en avant visuellement, graphiquement, leur CV ou tout autre document. Et pour les étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, un rapport de stage effectué sur un traitement de texte classique, comme LibreOffice ou Word, passait. Maintenant, non, on veut une mise en page qui soit attractive, qui soit punchy, on va dire ça comme ça, qui attire l'œil, qui soit ludique à voir pour comprendre aisément. Donc ça, c'est les autres demandes. Et puis après, on a effectivement des besoins pointus. Vous parliez par exemple de création graphique et web. On arrive à un stade où, quand une personne crée une entreprise, même insignifiante soit-elle, une micro-entreprise de base sur un produit de niche, malheureusement, la première chose qu'un acheteur potentiel demande, c'est est-ce que vous avez un site web. Alors la solution la plus simple, effectivement, c'était d'utiliser le fameux réseau social blanc-bleu. Mais même parfois ça ne suffit pas, parce qu'il faut être inscrit sur le réseau pour y avoir accès. Alors même si on est 4 milliards maintenant à être sur Facebook, alors on va citer le grand nom, ça ne suffit pas. Donc maintenant, beaucoup demandent, alors comment dois-je faire pour créer un site, pour faire un site de vente, pour faire un site vitrine? Ça, ce sont les différents types qu'on a. On a plusieurs niveaux, mais là, on a à peu près les trois grands types d'usagers d'un laboratoire.
D'accord. On n'a pas encore parlé, Mickaël, des logiciels libres. Je voudrais que vous nous en disiez quand même deux mots. Pourquoi c'est si important de promouvoir les logiciels libres dans les établissements culturels?
Alors, c'est pas même pas les établissements culturels. Je pense que c'est tout type d'établissement doit s'y intéresser plus ou moins. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple tout bête de la gendarmerie nationale qui a migré sur LibreOffice. C'est pas un choix d'économie, comme on pourrait le croire. C'est vrai que migrer 200 000 postes sur, je crois que c'était ça, sur du libre, c'est pas une question d'économie. C'est une question de rétrocompatibilité. Si vous cherchez l'article sur le net, on peut retrouver assez simplement la réponse. C'est que le problème des logiciels dits propriétaires, parfois, c'est qu'ils ont en tendance à oublier leur passé. Ils ont un peu la mémoire qui s'occulte. Et des vieux documents, textes tout simples, qui ont été faits, on va dire, il y a 20, 30 ou 40 ans, si on les rouvre avec les logiciels les plus récents, le problème se pose de pouvoir les lire en gardant le même format. Et ça ne se fait plus. Donc ça, voilà, il faut oublier le côté, si on passe vers du livre, c'est que de l'économie. Non, il y a un intérêt qu'effectivement, ces logiciels libres ont souvent, on va dire, une qualité de récupération de données qu'on pourrait qualifier d'obsolètes, auxquelles ne s'intéressent plus les logiciels propriétaires. Il y a déjà ça. Après, il y a le coût économique qui est intéressant. C'est vrai que lorsqu'on crée, je vais reprendre le principe de la micro-entreprise, créer une micro-entreprise, on n'a pas des moyens financiers qui nous permettent d'acheter des grosses suites propriétaires à des coûts parfois par abonnement mensuel. Je ne citerais que le fameux trio de création graphique d'une grande marque américaine qui demande, je crois, c'est 20 ou 30 euros par mois pour utiliser ces outils. Alors on pourrait dire, oui, j'arrête l'abonnement, je le reprends quand j'en ai besoin, mais quand c'est un besoin il s'avère être quotidien, ça devient compliqué. Il y a cette partie-là. Et puis, il y a une partie aussi que les logiciels libres sont plus réactifs. Il est plus facile de fédérer, en fait, une population. Je crois que pour les 25 ans de Linux, qui est né en 92, ils avaient fait le point, c'est 10 millions de personnes qui travaillent en permanence et en parallèle sur la résolution des bugs et l'adaptation sur des pilotes un peu compliqués et autres. Je doute que, aussi grande soit-elle, des entreprises comme Apple ou Microsoft peuvent fédérer 10 millions de salariés. Lorsqu'il y a un bug qui est corrigé sur ce genre de plateforme que sont Windows ou autre, ça prend du temps. Là, on a eu encore l'exemple il y a deux jours, toujours des exemples pratiques, hein. Un bug a été découvert qui était quand même assez sensible. 24 heures plus tard, grâce justement à la mobilisation de tout ce monde-là, on a pu le résoudre. Ah yeah, il est réglé. Il suffit juste de télécharger la mise à jour. Donc, le logiciel libre a énormément d'avantages là-dessus. C'est effectivement sa réactivité. C'est aussi... Alors, je vais faire un parallèle qui avait été fait, je crois, par Stallman, où il parlait de comparer un logiciel libre à une recette. Vous allez dans un restaurant, vous demandez un bœuf bourguignon, vous le trouvez très bon. Le restaurateur ne va pas vous donner sa recette. Il va dire, c'est ma recette, vous l'avez payé pour le manger. Vous n'avez pas payé pour savoir la faire. Par contre, un logiciel libre, mais non seulement vous avez pu le tester sans le payer, qui est déjà quand même assez appréciable, mais en plus, derrière, on va vous donner la recette pour savoir comment il a été fait. Et si l'envie vous prend de rajouter du sel, de retirer du poivre ou de remplacer un très bon vin par un autre vin peut-être de qualité moindre parce que vous considérez que voilà il est moins fort, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que les logiciels libres, le code source étant là, on peut très bien le modifier. Donc pour peu qu'on ait des codeurs dans une structure comme Dallo, dans leur DSI ou autre, rien n'empêche un logiciel libre d'être adapté aux besoins. De la com d'aglo. J'ai besoin d'un logiciel de comptabilité, mais je n'ai pas besoin d'avoir les statistiques de frais, dépenses et autres. Ben, on le retire, vous me retirez, vous me le modifiez, vous mettez autre chose à la place. Ça, c'est possible. L'intérêt du libre, il est là. Et dans les établissements culturels, il est d'autant plus important qu'effectivement, un usager, voilà, qui a besoin à un moment de travailler sur une application, lorsqu'on lui présente une application propriétaire, on va lui dire, ben voilà, monsieur, là, vous pouvez le faire chez nous, c'est quelque chose de offert par le service public. Par contre, si vous voulez chez vous, il vous faudra débourser la somme de. Ça peut être problématique. Par contre, si on lui dit, venez avec votre clé, non seulement on vous donne le logiciel, vous repartez avec votre document et le logiciel qui permet de l'utiliser, là, le gain, c'est-à-dire pour l'usager, il est de 200%, quoi. Donc, l'utilisation de logiciels libres est super intéressante à ce niveau-là, dans tout établissement qu'il soit.
Alors, Mickaël, on arrive déjà au bout de notre entretien passionnant avec vous. Une dernière question pour conclure. Est-ce que un médiateur numérique a également pour mission, finalement, d'un petit peu sensibiliser ses collègues en interne aux outils du numérique?
Tout à fait. Tout à fait. Parce que des fois, il arrive que les collègues ont besoin d'outils Des outils alors qu'ils l'utilisent à l'ancienne, on va dire, voilà, une feuille de papier, un crayon, une note, un classeur, alors que un médiateur, par la veille qu'il effectue, par les connaissances qu'il a de différents types de logiciels, peut lui simplifier la vie en lui proposant un outil numérique adapté à ses besoins, parfois libre, parfois payant, à moindre coût, mais qui peut l'aider, l'aider à effectuer et simplifier son travail quotidien. Ça peut être aussi ce qu'on appelle de la passation de savoir. C'est-à-dire, je sais une méthode, je lui apprends, pour peu qu'à un moment il tombe sur un usager qui lui pose la question, il n'est pas obligé de remonter jusqu'à moi. Il a l'information, il peut la transmettre aux autres. Voilà. Pour faire simple, je dirais que le savoir n'a de valeur que s'il est l'apanage de tous. Plus on est à savoir, plus en fait la connaissance se distribue et mieux c'est pour être autonome, que ce soit collègue ou usager.
Eh bien, c'est une excellente réflexion philosophique sur laquelle on va se quitter. Merci Michael Rockle d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver évidemment Michael au sein de son service numérique de la médiathèque Voyelle, réseau des médiathèques communautaires Ardenne Métropole. Moi, je vous retrouverai très bientôt sur Fréquence T, la web radio des territoriaux, pour de nouveaux entretiens. Et je vous engage aussi à venir visiter la e-communauté culture et territoire sur laquelle on met plein d'infos pour tous les agents territoriaux. À très bientôt.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.